Oui, on sait que vous préférez les bandes continues, mais malgré tout, ce soir, c'est La Causerie, les 22h. Et nous allons démarrer avec un titre choisi par nos invités. C'est parti! Il y avait plein de petits osios pour ouvrir La Causerie ce soir. 22-23 dimanche, comme d'habitude, Radio Canu. Si tu veux nous écrire lacausericanu@gmail.com, si tu veux nous réécouter blogs.radiocanu.org/lacausserie, ouais, j'y suis arrivé, ou presque. Et ce soir, nous avons autour de la table, alors on va commencer par les gens qui sont dans La Causerie, parce qu'on est très très comme ça, donc Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara à la technique.
Bonsoir.
Bon, moi, c'est Fab, vous m'aurez reconnu. Et on reçoit ce soir deux invités de prestige, oui, on peut le dire, et qui vont se présenter. Mais ils sont super timides, mais il y en a qui, un qui a fait de la radio, donc il va savoir faire. Donc, allez-y, présentez-vous.
Ben, bonsoir à tous. Je suis Nathalie, et donc je suis réalisatrice sur un documentaire dont on va parler ce soir, avec François, qui est là.
Voilà, moi, c'est François, bonsoir. Et voilà, donc je suis le co-réalisateur avec Nathalie du film We Can Be Gay Today, dont on va parler ce soir exactement.
Alors on va pas faire genre Nathalie t'es jamais venue parce que t'étais déjà passée chez nous.
Pas très longtemps.
Voilà, pour présenter un documentaire dont on a reparlé ensuite d'ailleurs dans La Causerie, qui a fini par s'appeler Drôle d'oiseau si je me souviens bien maintenant.
C'est ça.
Voilà. Ben bienvenue déjà, merci d'être venue. Alors We Can Be Gay Today. pourquoi ce titre et où ça se passe tout ça?
Alors, We Can Be Gay Today est un documentaire sur la Gay Pride qui a eu lieu en 2013 en Lituanie. Donc c'était leur première Gay Pride ouverte. Et en fait, We Can Be Gay Today, pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, c'est ce que dit un des protagonistes du documentaire au tout début du film. Elle dit We Can Be Gay Today dans le sens où c'est la seule journée de l'année où ils peuvent se montrer tels qu'ils sont. Ils peuvent montrer leur homosexualité. C'est la seule journée de l'année. Voilà. Donc, We Can Be Gay Today.
Moi, je rebondirais. Pour une fois, c'est moi qui rebondis. sur, tu disais, c'était leur première Pride ouverte.
Oui.
Tu peux juste, alors, l'un ou l'une, pouvait juste définir, c'est quoi une Pride ouverte?
Oui, alors, ils ont déjà fait une première Pride en 2010. Et là, c'était une Pride fermée. Ça veut dire qu'en fait, ils sont enfermés par des barricades de métal. Et les barricades elles-mêmes, protégées par les policiers... et tout plein de services.
Voilà, puis il y avait une liste sur laquelle il fallait s'inscrire à l'avance pour pouvoir participer à cette Pride. Et là, c'était pas le cas. Là. N'importe qui, en théorie, pouvait y participer.
On a une réclamation de Clara, silencieuse, mais qui dit « Mais c'est quoi le titre qu'on a écouté au début ?» Elle n'a pas tort, on l'a pas présenté.
Oui, alors le titre, c'est The Murmurs qui chante, et elle chante Make Love, Not War.
Voilà.
Avec un très bel accent.
Ouais, mais ça introduisait bien le fait plutôt l'amour que la guerre, c'est bien.
Oui.
Bah oui, traduction.
Alors justement, alors, pas justement, ça n'a aucun lien en fait. C'était. En fait, est-ce qu'on peut aussi juste peut-être préciser en fait une forme de spécificité en tout cas de la Baltic Pride justement, c'est qu'elle en fait elle se.
Alors c'est ça. Donc la Baltic Pride en fait c'est une marche des fiertés qui a lieu un an sur trois. Dans chacun des trois pays de la Baltique. Et c'est assez marrant parce qu'en y allant, on s'est rendu compte qu'on met souvent ces trois pays dans le même panier. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est Lituanie, Lettonie et Estonie. Et on me dit souvent, ouais, les pays baltes. Et en fait, ces trois pays n'ont absolument rien en commun. Jusqu'à il y a peu de temps, ils n'avaient pas la même monnaie. Bon, maintenant, il y en a deux qui sont passés à l'euro. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas la même culture. On ne trouve pas du tout les mêmes types de personnalités. Voilà, c'est trois pays qui n'ont rien à voir. Et donc, un des rares trucs qu'ils ont en commun, c'est ça, la fameuse Baltic Pride. Donc là, cette année, elle se passe en Lettonie et c'est l'Euro Pride en même temps. Donc, c'est assez important comme événement là, qui va avoir lieu à Riga, donc en Lettonie. Donc, qui se trouve au nord de la Lituanie, pour ceux qui... se remémorent plus trop de leur géographie.
Pas très loin de la Russie pour ceux.
Voilà, c'est ça. Donc il y a la Russie, il y a la Pologne et juste voilà. Au-dessus, dans le coin entre les deux, là, on trouve ces trois pays-là. Donc et donc la Lituanie a la réputation d'être le pays le plus homophobe d'Europe. C'est pour ça que c'est quand même assez impressionnant qu'ils aient réussi non seulement à organiser une marche des fiertés, mais en plus à l'organiser dans la rue principale de la ville, ce qui a été l'objet de, je sais pas combien, je crois, quatre procès différents.
Quatre procès, ouais.
Qui sont étalés sur des mois et des mois et des mois. Ils ont eu l'autorisation de défiler le mardi pour le samedi. Donc voilà, pour vous dire à quel point c'était compliqué.
Et ça, ça fait partie des choses en fait qu'on peut voir dans le doc parce qu'on a eu la chance de pouvoir voir votre doc. Et moi je reviendrai encore. Alors avant, je passe. T'as vu? Enfin, je surfe sur le temps. Enfin bon, bref. Pardon. Et donc là où je voulais peut-être revenir quand même, c'est en fait comment vous en êtes arrivés vous deux à dire ben voilà, en fait on va à Vilnius et on va filmer ça.
Bon, je vais continuer à parler.
Alors, elle nous a prévenu que c'est toi qui allais faire toute l'émission et qu'elle ferait oui-oui de temps en temps. Donc, on le sait.
Je suis pas de problème.
Pas de problème. Alors, en fait, c'était en novembre 2012. Il y a un type complètement par hasard qui est tombé sur mon profil sur le site LinkedIn, sur lequel je vais absolument jamais, qui m'a envoyé, il m'a dit, voilà, j'ai vu que vous étiez réalisateur et il m'a transmis une annonce qui venait de l'ambassade de France en Lituanie pour réaliser donc des publicités télévisuelles pour annoncer la Gay Pride. Et donc il se trouve que c'est moi qui ai été choisi pour réaliser ces spots. Et avec Nathalie, on se connaissait pas depuis très longtemps. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, avec elle, je vais pouvoir tenir une semaine complète sans péter un câble. voilà, et donc avec elle et un autre ami, on est parti en voiture en Lituanie. Un long voyage pour aller réaliser ces publicités. Et donc, quand on est arrivé, on a Voilà, on a réalisé des pubs dans lesquelles il y a quand même des gens qui affichent ouvertement leur homosexualité dans la rue. Ça faisait partie du concept, en fait, de la publicité. À savoir, donc, des gens qui expliquent, c'est vraiment très simple, c'est des gens face caméra qui expliquent voilà, pourquoi c'est important d'avoir une marge des fiertés dans leur pays. Et ils précisent au passage de quelle sexualité ils ont, en fait. Et voilà, il y en a qui sont hétéros, il y en a qui sont homo, on a une trans, on a voilà, de tout, quoi. Et parce que c'était aussi important de montrer qu'il n'y avait pas que des homos qui étaient pour la marche des fiertés, parce que là-bas, c'est pas toujours très clair. Donc c'était vraiment important de montrer ça. Et du coup, en fait, sur les passages en pleine rue, comme ça, où on avait donc des gens qui disaient, voilà, je suis homosexuel et machin, machin, et ils disaient ça en pleine rue. Et le regard des gens autour était vraiment flippant. On a failli se faire agresser à un moment, on s'est fait insulter. Enfin, voilà, et on a vraiment admiré leur courage. Et quand l'ambassade de France nous a proposé de revenir pour la marche, ils nous mettaient à disposition un appartement, voilà, si vous voulez revenir, machin. Et on s'est dit, mais vas-y, on va faire un film là-dessus, quoi. Et donc on l'a fait. Et bon, après, on a mis un an pour le monter parce qu'on faisait ça sur notre temps libre.
On a eu 2 mois à peu près pour préparer le film, ouais, et partir pour le filmer.
C'est ça.
Donc on n'avait pas de possibilité de chercher des financements de manière plus classique.
Traditionnelle, ouais.
Donc c'est un film qui est entièrement autofinancé. On est partis tous les deux. Et donc on s'est retrouvés en juillet, pendant 10 jours à peu près, à Vénus.
Voilà.
Pour filmer.
C'est ça.
Belle aventure, en tout cas, a priori.
Ah ouais, ouais.
Ouais. Oui, des belles rencontres. Ouais.
Et alors, du coup, ce que tu as filmé là, ce dont tu parlais, c'est ce qu'on voit dans les bonus du DVD.
Exactement.
Oui, parce qu'on a eu le DVD.
Ils ont les bonus. Ah, là, là.
Et à la cause, on prépare pas à moitié. Hein. Donc, non, mais voilà. Et franchement, c'est surprenant parce que ça paraît un peu. Enfin, ça peut paraître très décalé pour des gens qui vivent en France en disant, ouais, bah tiens, pourquoi il y a besoin de faire une pub comme ça. Quand on a vu le reportage juste avant et qu'on regarde la pub après, on voit le pas que c'est de faire une publicité où on dit bah voilà, je suis homosexuel, je suis bisexuel, je suis transsexuel, comme tu le dis, dans la rue face caméra. Là on voit le courage, ça porte un nom et voilà, il est là, quoi.
Non, c'est clair.
Oui.
Et ce qui est très marrant aussi, c'est que j'avais été choisi parce que je suis le seul à avoir donc fait une proposition de scénario et avoir dit, mais en même temps, voilà, moi je vous dis ça en tant que Français, ça se trouve, ça colle pas du tout à votre culture. Et ils avaient beaucoup apprécié ça, et le résultat des publicités a rien à voir avec la première version de scénario que j'avais envoyé. C'était au contraire quelque chose de très français, en fait, de très décalé, un peu au second degré et tout. Là-bas, le second degré, c'est absolument impensable.
Et puis, ils ne sont peut-être pas encore là pour affirmer
non,
ça.
Non, pas du
aussi,
tout. Non. Ça, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Et du coup, c'est marrant parce que quand ils m'avaient envoyé les modifications qu'ils voulaient par rapport au scénario, j'étais des fois limite un peu surpris, quoi, parce que des choses très nationalistes où ils affirment leur. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout en France. Mais comme c'est un pays qui a à peine 20 ans, on est obligé d'en passer par là parce que oui, ces gens-là font partie de la Lituanie aussi. Et ils s'affirment comme lituaniens parce que c'est un pays très jeune qui a un besoin d'identité qui est très fort parce qu'ils ont subi plus de 100 ans d'occupation, quoi, entre alors il y a eu ils ont tout eu, ils ont eu les Prusses, ils ont eu les bolcheviks, après ils ont eu les nazis, après il y a eu les soviétiques, enfin ils ont tout eu, quoi. Et du coup voilà, ils ont un besoin très très fort d'identité et il fallait qu'on mette ça en valeur dans les spots, et pour un Français ça fait très bizarre.
On est réputé pour être chauvin, on arrive à tout moins.
On est chauvin, mais on n'a pas cette tendance à affirmer notre nationalité. Enfin, au contraire, on a plutôt tendance à en rire, quoi.
C'est ce qui m'a fait un peu bizarre quand j'ai regardé les. Non, mais parce que en fait, c'est vrai qu'il y en a plusieurs fois où ils le disent, on est lituanien ou lituanienne. Et effectivement, enfin, ça se comprend aussi, et qu'après, encore une fois, ils sont chez eux et ils expliquent leur vision de l'approche de tout ça et que. Enfin, voilà, qu'on les reçoit, enfin, je sais pas comment dire.
Mais moi, je propose qu'on continue à en parler. On fait une petite coupure musicale et on continue à en parler juste après.
Il a un des yeux, de grands yeux noirs, des yeux de femme, qui raconte à eux tout seul déjà tout le drame de ces soirs où les boîtes ferment, qui laissent un cœur qu'il faut traîner jusque chez soi, son pauvre cœur. Il a des mains un peu trop grandes, un peu trop fortes, qui lui font dire parfois qu'il voudrait être morte. Quand il a trop fumé, trop bu et trop chanté, de ces nuits où il n'arrivait pas à rentrer, il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Fait appeler mademoiselle. Elle est très seule mais n'est jamais triste en public. Une vraie femme doit savoir rester pudique. Et quand elle rit un peu trop fort, un peu trop faux, c'est pour ne pas répondre aux questions des badauds. Elle aurait voulu avoir son petit commerce, son petit machin sans prétention, sa petite adresse. Elle y aurait vendu des dessous en dentelle pour de vraies fesses, de vrais seins, de vraies femelles. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, ça fait appeler mademoiselle. Sa jeunesse de femme lui a claqué dans les doigts. Il regarde ce corps qu'il ne reconnaît pas. On ne peut pas dire qu'il soit fraîche comme les roses. Au moins il échappera à la ménopause. Il a rêvé sa vie en film et en chanson, un brouhaha d'amant aimant plein de passion. Il y chantait des airs romantiques et charmants. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du sang bon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Mademoiselle.
Et de retour dans la causerie dimanche 22-23. Juste pour dire que si vous laissez des petits messages à nos invités, vous pouvez le faire sur lacausericanu@gmail.com. Voilà, et on leur passera. Et donc, ben, on vient d'écouter quoi ?
On vient d'écouter Zaza Fournier avec Mademoiselle.
Et on est donc toujours avec Nathalie et François pour parler du documentaire We Can Be Gay Today.
C'est ça.
C'est ça. Je suis bon
c'est
là.
C'est ça.
Ok, super. et là, ce qui serait, ce qui peut être intéressant, c'est justement de développer un peu autour de comment vous avez réalisé le documentaire, les conditions. Vous avez dit que vous y étiez pendant 10 jours, une semaine, 10 jours. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'on a aussi les préparatifs, on a aussi l'après, enfin donc voilà, si vous pourriez causer un peu de tout ça.
Et ben donc la première fois qu'on y était allé 2 mois auparavant, on était allé en voiture, donc c'était 3 jours aller, 3 jours retour.
4 jours aller, 4 jours aller.
4 jours, oui.
On a loupé notre bateau.
Bref. Échec. On a décidé de pas refaire tout ça de voyage et de prendre l'avion. Ça fait quand même 8 heures. On avait une contrainte qui était l'équipement qu'on prenait avec nous pour tourner. Et donc, on est parti avec notre équipement personnel. Donc, on a filmé avec les appareils photo.
Avec deux boîtiers photo, voilà. Avec des cross-épaules en plastoc chinoise. Là,
et... Voilà. On a filmé le son, voilà. On avait l'équipement de François plus le mien. Et donc, voilà, on n'avait même pas pris de trépied avec nous. C'était vraiment... On voyageait léger, parce qu'il fallait qu'on puisse tout prendre en cabine avec nous. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'était la première contrainte technique. Quand on est habitué à travailler avec un petit peu de matériel, ça fait bizarre de retourner un petit peu en arrière.
Ouais, mais... c'est clair. mais bon. Techniquement, c'était un retour en arrière, mais après, on avait notre expérience aussi qui nous a permis quand même de sortir du son tout à fait correct et des images tout à fait correctes, ou presque.
Non, mais pour avoir vu le résultat, c'est franchement très très bon. Ouais, quoi.
Clairement, enfin, oui.
Niveau image et son, il n'y a aucun souci. C'est... Voilà,
c'est... Et comme c'est quoi, chouette. Avec pas grand-chose, on peut faire des trucs.
Ouais.
Mais ouais.
Et donc, du coup, on est resté 10 jours sur place. On a eu peut-être 7 jours avant la Pride et 3 jours après.
C'est ça.
Pendant les 7 jours qui précédaient, on a eu le temps de voir un petit peu le programme qui était prévu parce qu'il y avait toute une semaine à thème autour de la communauté et la culture LGBT. Qui était développé avec des lectures.
Alors juste je précise pour les auditeurs qui savent pas, LGBT c'est lesbien, gay, bi et trans. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les.
Toute la
communauté. Voilà un mot valise pour appeler toute la communauté de sexualité un peu différente.
Voilà. Voilà. Donc il y avait plusieurs activités. Il y avait des expositions photos. Il y avait une exposition d'art contemporain. Il y avait une pièce de théâtre. Lecture de poésie, voilà, tout ce genre de choses. Donc, on est allé faire des images un petit peu partout.
Il y avait un concert aussi.
Il y avait un concert, oui, qui n'était pas dégueu. Parce que, en fait, on s'est juste retrouvé en face du groupe Betty, qui est juste un groupe hyper connu dans la communauté LGBT.
Ah, surtout chez les L, en fait.
Parce que moi, j'avoue. Je connaissais pas.
Donc voilà, on s'était retrouvé avec un ami lituanien sur place qui est... C'est une source de bons plans, ce gars. On arrive, on va le voir. Qu'est-ce qu'on fait ? Il nous dit, on va aller voir un groupe américain. On fait, on s'en fout un peu. On vient là pour filmer les lituaniens, les américains, on s'en balance, quoi. Et donc, il nous fait, non, on y va quand même. Donc, on y va. Puis là, on voit Betty. On fait, ok, bon.
C'est Eudy les bons tuyaux, ce mec. C'est
ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel état tu étais pendant une heure?
Je crois que j'ai souri beaucoup.
Beaucoup rigolé.
J'ai été très rouge et j'ai sauté partout.
C'est à peu près ça, ouais.
Mais du coup ça, on va en parler. Du coup, ça veut dire, ça montre qu'il y a une sorte de soutien international aussi de la Baltic Pride, du coup. Parce qu'un groupe américain qui vient là, c'est pas par hasard.
Ah oui,
tu parlais de l'Institut français.
Il faut savoir que on en parle dans le documentaire, hein, la Baltic Pride, elle s'est faite grâce au soutien international. Ils n'auraient jamais pu faire un truc avec une telle ampleur sans le soutien de... Alors, il y avait l'ambassade de Hollande, l'ambassade de République tchèque, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis. Enfin, il y a plein de soutiens internationaux. Et ce qui pose aussi problème, puisque ça donne l'impression aux Lituaniens, donc anti-LGBT, que tous ces trucs-là sont importés d'ailleurs, parce que il y a bien que les Occidentaux pour soutenir ce genre de perversité, comme ils disent.
Il n'y a pas d'homo chez les Slaves, tout le monde le sait.
Mais voilà, c'est un peu le discours qu'ils ont. Et même à la LGL, c'est problématique, parce qu'il y a un noyau de 5 ou 6 permanents qui, eux, sont lituaniens, et le reste du staff, c'est des étudiants étrangers, en fait, qui viennent faire...
Du bénévolat.
C'est ça, c'est le...
Le contrat civique européen.
C'est ça, c'est le... Ouais.
Est-ce que tu peux juste rappeler la LGL parce
qu'en fait,
on l'a pas, on n'en a pas encore parlé.
Donc la LGL, c'est la Ligue lituanienne, donc avec qui on a travaillé tout ce temps-là, qui sont à l'origine donc du projet des publicités, qui sont les organisateurs de la Gay Pride et qui sont la seule organisation non gouvernementale active dans la lutte pour les droits des LGBT. Il y en a une autre, sauf que eux, ils sont sur
c'est plus un groupe,
ils sont beaucoup moins actifs et surtout ils étaient contre l'idée d'une marche des fiertés parce que ils pensaient que pour pas être embêtés, il vaut mieux pas se montrer.
C'est drôle parce que pour les gens qui ont connu les années 90 en France du mouvement LGBT, c'est exactement les mêmes débats qu'on retrouvait en France dans les années 90 avec on va dire ça comme ça, mais Arcadie d'un côté et le Phare de l'autre. Et le Phare qui disait il faut marcher dans la rue parce qu'il faut qu'on se voit, et puis Arcadie qui disait non, attendons, les gens vont progresser par l'éducation et par par les textes. Et en fait voilà, c'est deux visions qui s'affrontent très souvent en fait. Et moi, en voyant le documentaire, c'est ça que je vais trahir mon âge, ça m'a rappelé une époque
que ton grand-père te rappelait,
non, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a vraiment, ils ont les mêmes débats, et c'est très étonnant de voir, moi avec 20 ans de décalage, de voir des débats que j'ai pu voir moi ici, voilà, sur des, enfin, par exemple aussi sur le fait qu'ils font la Pride en demandant aux gens de ne pas s'habiller de façon excentrique. Ce qui s'entend et ce qui se comprend pour éviter la surprovocation, parce qu'il y a déjà une provocation par la Pride.
Exactement.
Et voilà, et c'était ça aussi, c'est des débats qui sont courants, quoi, et qu'on a pu avoir, et qu'ils ont eux, et qui sont logiques, quoi. Enfin, qui, voilà.
Après, ce qui est sain, c'est qu'il y a un débat.
Oui, tout à fait. Hein,
c'est parce pas... que, bon, après, ça, c'est en grande partie grâce à l'Union européenne. Si c'était pas un pays de l'Union européenne, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué.
Ouais.
Mais n'empêche, grâce à l'Union européenne, ça a permis ce genre de débat, parce que, grâce à l'Union européenne, ils peuvent pas avoir des lois vraiment anti-gay. Ils en ont quelques-unes, mais bon, c'est un peu caché, c'est un peu de façon détournée.
Ouais, toujours sur la protection de l'enfance.
Voilà, c'est ça, ce genre de choses. Mais ils ont pas les lois où, enfin, ils ont pas le droit de mettre un homo en prison juste parce qu'il est homo ou des choses comme ça, comme c'est le cas dans d'autres pays aux alentours. Quoi. Et ça, c'est grâce à l'Union européenne. Grâce ou à cause, hein, ça dépend de quel côté on se situe.
Du point de vue des anti, c'est à cause.
Et voilà,
ils le marquent sur leur bateau.
Et du coup, encore une fois, pour les anti, c'est encore un problème de l'Union européenne, ouais. C'est encore les autres, etc. C'est encore un problème des Occidentaux qui viennent nous envahir et blablabla. Enfin, c'est... Parce qu'ils sont aussi évidemment anti-Union européenne, ces gens-là, les gens qui sont anti-LGBT dans le.
Ouais.
Ils sont à peu près anti-tout, hein, quand on les voit, on a compris qu'il n'y avait pas grand-chose qui marchait.
C'est ça, ouais.
Pas à part eux-mêmes. Mais, mais moi, j'ai une question du coup par rapport à. Parce que vous avez suivi leur gars. Enfin, moi, j'ai vu le documentaire, donc je ne vais pas faire le mec qui ne sait pas, parce que la réponse est dedans. Mais, en fait, il y a quelque chose moi, qui m'a pas mal intéressé. C'est le côté extrêmement optimiste qu'ils ont, en fait, que tout le monde a. On les sent très optimistes et très même si on sent qu'il y a quand même de la peur et de la crainte, faut pas se mentir, quand arrive la Pride, ils sont sur le bus, ils rigolent tous, ils sont contents, mais on sent quand même qu'il y a toujours ce truc, est-ce qu'il va pas se passer quelque chose qu'on ne voudrait pas qu'il se passe, et c'est normal, mais par contre c'est un optimisme qui est débordant et qui fait vachement plaisir à voir. Vous l'avez ressenti
déjà, il faut pas oublier que tous ceux qui militent là à la LGL ils sont assez présents et ils connaissent très très bien la culture LGBT dans le reste de l'Europe, de l'Ouest. Ouais. Donc ils connaissent un petit peu cette manière de détourner pour essayer de ne pas être touchés. Mais du coup, là-bas, le travail est encore plus dur parce qu'ils ont des doigts d'honneur partout où ils passent. En plus, ce sont des personnages publics, ils passent à la télé. Régulièrement, ils sont interviewés. Donc quand ils marchent dans la rue, ils sont reconnus.
Et je sais plus ce que je voulais dire. On parlait de quoi il y a 3 secondes.
L'optimisme,
oui, c'est ça. L'optimisme, il vient. Où suis-je? Non, l'optimisme, il vient aussi du fait qu'ils ont réussi à avoir le droit de la faire, cette Pride, quoi.
Ouais, ouais.
Ça, c'est clair que. Enfin, ils ont. Ouais, encore une fois, ils l'ont su 4 jours avant, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de l'optimisme qui vient de là. Et il y a aussi, effectivement, comme dit Nathalie, l'autre partie qui vient du fait qu'ils savent très bien qu'il faut montrer l'optimisme.
Ah mais ça
le
enfin dès les enfin l'origine des Prides, c'est ça, enfin hein, c'est de toute façon c'est de montrer un côté optimiste face à la haine, quoi, et pas être dans la réponse en effet miroir. Mais ce qui moi m'a impressionné, c'est quand même qu'il y a une espèce, enfin on les sent très soudés par cette espèce de vague qui les porte. Et c'est hyper intéressant de voir justement le, on va dire une l'associatif et le communautaire en action au sens très positif du terme, et on les sent se porter les uns les autres. Et c'est, enfin, moi j'ai trouvé ça très bien rendu dans votre documentaire, et en plus pas chiqué, parce que je veux dire, on voit que vous avez pas fait le montage pour ça ou autre, parce que rien que dans la façon de parler, dans les interviews, on les sent euphoriques par moment, où là où nous on a un peu peur pour eux, entre guillemets, en disant oula, il est bien optimiste le monsieur là, ça va vraiment bien se passer, parce que t'as vu les images de 2010, voilà. Et en fait, non, finalement, pas de suspense, ça s'est plutôt très bien passé.
Ouais.
Mais, mais en plus, ils sont vraiment portés, c'est vraiment plaisant à voir.
Oui, mais ils sont aussi très pudiques sur tous ces malheurs qui sont sur eux. Parce que nous, dans notre documentaire, on n'a quasiment rien de personnel à eux, de mauvaises expériences qu'ils aient pu vivre. Ils veulent pas en parler. Alors, c'est sûr que si on creuse un peu plus, ils vont finir par le dire, mais devant une caméra...
Pas devant les caméras, oui.
Non.
Parce que tu as ramené des chiffres qui sont intéressants.
Ouais.
Et je pense qu'on peut peut-être les donner à l'antenne pour que les gens se rendent compte de ce que c'est comme. De où se situe le pays par rapport au reste.
Oui.
Quand même.
Donc, les chiffres que j'ai, c'est une enquête qui a été publiée par ILGA, qui est une grosse association
LGBT d'Europe.
En Europe. Ouais. Et donc, le principe de cette carte, c'est de montrer les pays où il fait le plus bon vivre pour les homos et pour la communauté LGBT. Donc, le pays le plus accueillant, c'est la Grande-Bretagne.
Et l'Écosse en particulier.
Il y a l'Écosse qui est pas mal. Par exemple, la France, on est à 65%. Donc, on est à peu près dans une moyenne positive, mais c'est pas non plus top. La Grande-Bretagne, on disait 86%. La Lituanie, ça tombe à 19%.
Ah ouais.
Donc, on fait partie des pays vraiment les plus mauvais pour la communauté LGBT. Et le pire, c'est en termes d'agression, où là, pour le coup, c'est là où il y a le plus gros taux d'agression en Europe.
Et ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, ça, ils ne le mettent jamais en avant. Ils sont vraiment dans la notion d'acceptation, de faire avancer la société, mais ils ne le mettent pas en avant en disant... Ils pourraient s'en servir comme angle d'attaque ou d'entrée. Et en fait, c'est hyper impressionnant de voir que ce n'est pas ce qu'ils mettent en avant. Et au contraire, c'est l'idée, on est des Lituaniens et des humains comme les autres. Quoi. Et ça, c'est... Enfin voilà, je trouvais ça vachement fort. Quoi.
Bah, ça, c'était le cas en 2013. En 2014, on a fait une nouvelle campagne de pub pour eux. Et vous l'avez peut-être pas vu celle-là, par contre.
Eh ben non, tu nous as pas tout donné.
Elle est pas dans le DVD.
Ah non, c'est pas vraiment en rapport avec la Baltic Pride. On l'a pas mis sur le DVD volontairement. Mais en fait, on y est retourné en fait un an après, donc avec Nathalie, pour tourner une nouvelle pub. Et là, pour le coup, on était plus dans l'attaque en fait. C'est-à-dire qu'on montrait des messages, des clichés qu'on entend tout le temps par rapport aux homos. Et donc ça, c'était montré en texte. Et après, en image, on voyait des homos,
des scènes de vie
de tous les jours, banal, tout ce qui est plus banal. Et du coup, il y avait ce contraste-là qu'on avait mis en avant. Quoi. C'était pas mal du tout. Mais la situation change en Lituanie. Là, ils ont un député qui a proposé une loi pour un PACS, en fait. Le maire de Vilnius a changé. Maintenant, c'est une femme. Et elle est complètement pro-LGBT. Chose extrêmement surprenante.
Peut-être que l'Europride vienne à Vilnius un jour.
Bah, peut-être, mais en tout cas, en tout cas, ça a été annoncé pour 2016. Il n'y aura aucun problème pour défiler.
Attendons de voir. Non mais c'est important parce que les gens souvent en France disent les prides servent à rien, on comprend pas pourquoi les gens marchent, enfin c'est des trucs qu'on entend. Et en fait les prides c'est toujours le moment où, enfin les marches des fiertés comme on dit en France, c'est le moment où on ouvre, on tape dans la glace avec un brise-glace et après ça se fendit et ça finit par s'ouvrir. Et c'est exactement ça en fait. C'est un mouvement qui généralement alors ça arrive, hein, revient en arrière, c'est le cas en Russie en ce moment, mais généralement ça va plutôt en avant et ça permet en fait de mettre sur le débat public des choses qui étaient, souvent disaient de l'intime, alors qu'en fait non, parce que l'impact est beaucoup plus large que ça. Et là on voit bien, enfin moi je trouve dans votre reportage, on voit bien, dans votre documentaire, je me suis fait avoir, je l'ai dit, il ne faut pas dire reportage, voilà, tu vois, jamais se dire, il ne faut pas dire un mot. Dans le documentaire, on voit bien une chose, c'est qu'en fait, la Pride de 2013, elle a cette particularité, en plus de se finir bizarrement, avec une espèce de mélange entre les gens qui ont défilé
énorme.
Et les gens qui étaient contre. Et on voit cette espèce de contraste d'un seul coup entre des gens super heureux parce que la marche s'est très bien passée et que voilà, ils sont contents et voilà, il y a une affirmation.
Et des gens contre qui sont perdus. Non mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont perdus, voilà, ils sont en totale errance, ils savent pas où ils vont.
Et le pire en plus, c'est qu'on n'a pas eu à beaucoup chercher dans les images. Quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a montré dans le film, c'était vraiment ce qu'on a vu. Il y a pas, genre, on n'a pas cherché les angles incriminants ou quoi. Hein. Vraiment, ils étaient. C'est vrai que donc du coup, la fin de la prise se termine sur une place. Et en fait, là, au niveau de l'orga, c'était un peu, ouais, un peu le bazar, quoi. Le bus était prévu de passer, finalement il y avait de la boue, il pouvait pas, machin, enfin c'était compliqué, le cordon de sécurité, c'est un peu et du coup les anti, en tout cas les anti les moins violents, parce que les plus violents avaient déjà été embarqués par les flics, mais en tout cas les anti qui étaient juste là pour bouger des drapeaux et faire la gueule, et ben se retrouvaient au milieu de cette place, au milieu de tout le cortège, quoi. Et donc il y a des speeches qui ont été prononcés par plusieurs personnalités du milieu LGBT qui étaient là, voilà, avec une foule immense de gens en train de les applaudir, et puis sur les côtés des gars qui étaient complètement perdus, qui savaient pas où ils étaient. limite, quand on les voyait, on se demande, mais même eux, ils savent pas ce qu'ils font là.
Enfin, l'impression est de le prendre par la main, lui dire allez, va, rentre chez toi, ça va bien se passer.
Non, mais pour moi, cette image, elle est super parlante parce qu'en fait, pour moi, elle marque vraiment la victoire qu'a représentée cette marche de 2013, parce que tout est dans cette image-là, en fait. C'est à ce moment-là qu'on comprend que, enfin pour moi, hein, qu'il y a un basculement et que là, il est évident. Enfin, il se voit vraiment, et c'est intéressant, quoi, de voir que oui, il y a toujours une utilité à marcher. Enfin, je trouve que c'était
alors, pour la petite anecdote, il y a un type qu'on voit particulièrement à plusieurs reprises dans le film. Voilà, Nathalie déjà sait de quoi je vais parler. Alors en fait, il faut commencer par le début de la journée, donc de cette Pride. On sortait du café de Paris, qui est en fait pour aller à l'appartement que l'ambassade nous avait prêté, il fallait passer par un bar français, en fait, qui appartient aussi à l'ambassade, qui fait partie de l'Institut français. Et donc on sort par ce bar-là, parce que les portes à côté étaient fermées. Donc on sort par le bar, donc qui est un bar ouvertement pro-LGBT. Et il y avait un type en train de boire un café assis à ce bar. Donc nous, on était avec tout notre matos sur le dos. Les on avait mis des brassards presse pour pas se faire taper dessus. Donc le type nous voit, nous arrête, fait dans un anglais très approximatif. Ah, vous êtes journaliste? Ouais. Vous allez filmer la marche cet après-midi? Ouais. Alors faites attention à vous. Hein. Oui, on va faire attention. Non, mais faites vraiment attention à vous, parce que moi, je vais y être. Hein. Et moi, je vais les tuer. Il nous regarde comme ça, droit dans les yeux, je vais les tuer. Et nous, on commence à se marrer en disant, non, mais il déconne, ou, parce que c'est un bar pro-LGBT, justement. Et, non, je rigole pas, je vais les tuer, comme ça. Wow. Alors, du coup, on était super rassurés tout le reste de la journée. Et il se trouve qu'en regardant les rushs, on s'est rendu compte que ce type-là est à plusieurs reprises dans le documentaire. Et justement, c'est ce mec-là qui, à la fin, est paumé au milieu du truc. Un type avec un t-shirt gris, une espèce de masque, on le voit très bien. Hein.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'est Nathalie qui s'en est rendu compte, le plus physionomiste que moi.
Mais juste traumatisé.
Mais là, j'avais préféré oublier sa gueule. et c'est elle qui me fait, mais attends, mais ce mec-là, là, c'est lui qui nous a menacé et tout au début. Ah ouais, donc c'est lui. Et on le voit 3 ou 4 fois dans le film.
Ouais.
Il avance au fur et à mesure de la marche, quoi. Et effectivement, on voit lui-même son changement d'état, quoi. Alors, je pense que c'est pas un truc qu'on remarque en voyant le film comme ça une première fois. Mais en tout cas, nous, c'est un truc qui nous a amusé parce qu'on s'en est vraiment rendu compte à la toute fin du montage, en plus, quoi. On avait déjà monté le film en entier et là, on s'est dit, mais attends, mais c'est vrai, c'est ce mec-là. Et en plus, on le voit, voilà, au début, être super énervé. Après, il sait plus trop ce qu'il fait. Puis à la fin, il est complètement paumé au milieu du truc, quoi.
C'est bien parce qu'elle fait le timing, elle regarde la montre, elle me regarde, elle dit, t'as vu, il est 22h37, si on faisait une coupure musicale. Oui, ok, ça va, on la lance.
Allez, on y va.
C'est comme tu veux. That
forcément. Bon, pardon. Vous êtes de retour à la causerie. On est toujours en compagnie de Nat et François qui viennent nous parler de Weekend Big Gay Today, le documentaire qu'ils ont fait sur la Baltic Pride de 2013. Et on parlait juste avant des conditions de tournage et de la Pride en elle-même, et puis de la haine que vous ne cachez pas, parce que vous filmez quand même à peu près tout. Donc on voit aussi les anti... Très très bien, et on vient donc quand même d'avoir le générique de la fameuse série The Hell World.
C'est ça.
Et alors, mais pourquoi on a eu ce générique-là? Parce que là, les gens vont se dire, mais ils vont nous vendre du DVD de Hell World maintenant?
Pas déconner. Non, c'est juste que du coup, le fameux groupe américain qu'on avait rencontré là-bas, Betty, ben, ce sont elles qui chantent ce générique-là. Donc c'est pour montrer l'importance d'avoir ces nanas-là dans le documentaire.
Et vous n'avez pas qu'elle d'ailleurs, parce que
il y a un neveu célèbre. Oui, c'est ça. Il y a le neveu de quelqu'un d'assez connu.
Le neveu d'Harvey Milk. Donc pour ceux à qui ça parle pas, donc Harvey Milk était le premier élu démocratique à être ouvertement homosexuel. C'était à San Francisco dans les années 60. Et donc il s'est fait assassiner en 68, une balle dans la tête. Il y a un très beau film avec Sean Penn sur le sujet, qui s'appelle Milk. Et il y a aussi un très beau documentaire sur le sujet. Et en fait, donc son neveu, qui était lui-même homosexuel, a monté donc avec l'ancienne associée de son oncle la fondation Harvey Milk, qui aide à la lutte pour les droits des homosexuels à travers le monde. Et ce qui est rigolo, c'est que, la famille Milk était à l'origine lituanienne. Et donc la première fois qu'un Milk revenait en Lituanie, c'était pour la première Gay Pride ouverte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement symbolique, en tout cas pour Stuart Milk.
D'ailleurs, vous avez une très bonne interview de lui dans le documentaire.
Non, très mais... courte.
Non, mais alors, oui, mais courte, mais je trouve bien, c'est-à-dire concise, mais justement, pas. Parce que souvent, enfin, moi, c'est mon avis perso, là. Quand on filme Stuart Milk, généralement, on fait des plombs sur lui en rappelant son oncle et on a l'impression de faire vivre son oncle à travers lui. Et en fait, je pense que même lui le vit un peu mal, parce que pas bon.
Alors.
Mais vous, le montage, parce que je pense que ça doit être beaucoup plus long ce qu'il a fait, mais le montage que vous faites de l'interview est, à mon avis, suffisante. Parce que ouais. Ça ne vient pas bouffer votre sujet, en fait.
Voilà. C'est-à-dire que Stuart Mill, c'est une personnalité admirable, mais il a trop tendance justement à se cacher derrière son oncle. Il parle de son oncle en permanence.
Oui, ça, oui.
Et
ses phrases...
Ouais, il commence toutes ses phrases quasiment par « comme mon oncle disait » ou des choses comme ça. Et du coup, nous, on trouvait ça un petit peu dommage. Donc on a, là, pour le coup, c'est vraiment des choix de montage. Pour le coup, qu'on n'avait pas trop eu à chercher. Là, on a vraiment découpé les extraits qui vraiment nous paraissaient pertinents par rapport à la situation. Et justement, oui, il ne rappelait pas trop son oncle parce que ce n'est pas le sujet et qu'on on était en train de parler d'autre chose.
Voilà. Et vous avez aussi une députée dont j'ai perdu le nom.
Alors, Maria
Pavilioniner.
Voilà, un nom compliqué là-bas. Et encore, ça va, il y a plus compliqué comme nom qu'on a eu dans le film. Mais oui, c'est une élue qui se bat pour les droits LGBT. Heureusement, il y en a. Donc à l'époque, il y avait qu'elle. Maintenant, il y en a d'autres, je crois. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que les échos que j'ai eus de nos amis de là-bas.
Vous avez gardé des liens assez forts avec...
Ah oui.
Avec ceux de la LGL, on est toujours en contact avec eux.
Un mercredi matin, j'étais en train de discuter avec Marius, un des copains qu'on a là-bas, parce qu'il était diffusé dans un autre documentaire dans lequel il apparaît, et c'était sur Arte.
Okay.
Donc...
Voilà, c'est passé mardi soir, je crois.
Ouais.
Et donc, vous pouvez le revoir sur Arte Plus 7, si tu te souviens du documentaire.
Je crois que c'est « Gay et alors ?»
Je crois que c'est ça.
C'est ça,
Homo et alors, peut-être.
Oui.
Ben voilà.
Mais super bien.
Et, ben alors,
et ça fait un super lien d'ailleurs avec le nôtre, avec notre film, parce qu'ils étaient à la Baltic Pride 2013 aussi.
C'est cool.
Ouais.
Et même avec leurs moyens, ils ont mis 2 ans pour faire le montage, tu vois.
Après, je sais pas comment ils ont financé.
Non, mais
si ça se trouve, ils sont peut-être justement mieux débrouillés que nous parce qu'ils sont sur Arte, quoi. Et que moi, le jour où je serai sur Arte, bah, je serai vachement content. Ouais. S'il y a des diffuseurs d'Arte qui nous écoutent, venez voir notre film. On vous le montrera avec un grand plaisir.
Ouais, et puis on peut peut-être rappeler qu'à Lyon,
il y a un festival quand même LGBT, écran mixte.
Et puis il y a la quinzaine LGBT.
La quinzaine LGBT, et que ben effectivement, je pense que Alors, je suis pas du tout organisateur de ce truc-là, hein, mais je trouve.
Mais
que...
on en connaît.
Ouais, puis, je trouve que c'est, ça mérite, enfin, ça a réellement sa place, je pense, dans ce genre de d'événements-là, ouais. Parce que encore une fois, il y a aussi une notion. Qui moi me tient à cœur, c'est cette notion d'internationalisme, alors pas paternaliste et pas néocolonial ou je ne sais quoi, mais c'est ce lien en fait où enfin toutes ces galères là, d'autres les ont connues avant, c'est d'autres vrai. Les connaîtront et il faut qu'on s'entraide quoi, parce que enfin face à nos ennemis, je crois que la solidarité quand même
c'est plus efficace que l'éparpillement.
Je pense.
C'est sûr.
Et, ouais, moi j'ai bah vas-y.
Non, et ben justement, vu que j'étais sur cette notion de d'aide internationale, etc., enfin d'internationalisme, etc. Moi, je voulais quand même revenir là-dessus aussi, mais c'est parce que dans le doc, en fait, on voit que des militants et des militantes lituaniens, lituaniennes, eux-mêmes, en fait, soulèvent un peu ce truc de l'aide extérieure qui, au final, effectivement, réconforte, on va dire, les anti. Parce que effectivement c'est ce mal qui vient d'ailleurs et qu'en même temps enfin bah sans le l'entraide internationale et sans quand même aussi une histoire de pognon
il n'y aurait pas d'avancée.
C'est
exactement ça,
ouais.
c'est un paradoxe. Alors du coup voilà, ils essayent quand même de mettre en avant le fait que la Baltic Pride c'est quand même un événement lituanien, qu'on est avec des assos lituaniennes, que c'est des Lituaniens qui se battent avec de l'aide de l'extérieur, effectivement, mais que c'est pour soutenir des Lituaniens. Et ça, ils essayent de le mettre le maximum en valeur.
Et les slogans sont en lituanien, d'ailleurs.
Exactement, tout est en lituanien.
Pas ouais. Enfin, ceux qui sont criés, je veux dire.
Oui, enfin, ils essaient au maximum, ouais. Mais il y a aussi beaucoup d'amnistie internationale qui parlent, du coup, c'est en anglais.
En allemand.
Allemand aussi.
Ouais, aussi, ouais.
Enfin, il y a un peu de tout.
Ouais. Mais alors, ce qu'on n'a pas montré dans le documentaire, c'est que, par exemple, les speeches à la fin, il y avait une interprète lituanienne à côté qui traduit absolument tout ce qui était dit. C'est-à-dire que c'est dans la loi en Lituanie, en fait, tous les événements, toutes les diffusions, tout doit être en lituanien. Ce qui nous a d'ailleurs posé problème, puisqu'on voulait diffuser notre doc dans le festival LGBT de là-bas, donc l'année d'après. C'était notre deadline un peu, et donc on a fait notre première mondiale là-bas, sauf que, genre, 3 semaines avant, on nous dit « Ah ouais, mais d'ailleurs, il nous faut des sous-titres en lituanien.
» Ah ouais, bien.
Et là, on était un peu emmerdés, quoi. Donc heureusement, on avait goûté donc, notre interprète, qui nous a fait un travail de malade pour tout nous sous-titrer en lituanien juste à temps. Mais heureusement, on avait elle, quoi, parce que sinon, on s'en serait jamais sorti, quoi. Ouais. Mais ouais, tout doit être en lituanien là-bas, c'est extrêmement important, c'est vraiment dans la loi, quoi.
En même temps, pour les discours, ça rendait aussi accessible aux lituaniens qui parlaient pas anglais. C'est aussi positif dans ce sens-là.
Mais
on sent bien, de toute façon, qu'ils ont une contrainte, comme vous disiez, c'est un état jeune, et du coup ils ont une contrainte assez forte autour de la notion, voilà, la Lituanie c'est ça, la langue elle doit être employée, plusieurs fois ils reviennent dans le documentaire sur la notion déjà d'appartenance à la Lituanie, mais ça se comprend, c'est parce que comme les Antilles les rejettent comme étant non lituaniens, ils rappellent qu'ils sont eux-mêmes lituaniens, et voilà. D'ailleurs, peut-être rappeler aux Antilles que souvent les homos sont des enfants d'hétéros, donc voilà, qu'ils arrêtent d'avoir peur des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est la personne qui s'occupe de la sécurité, qui à un moment explique qu'il a mis en place tout un panel de choses à faire et à ne pas faire. Alors, il y a une énorme liste pour justement que ça se passe très bien, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir la refaire chaque année, et il dit que c'est le meilleur moyen d'entrer gentiment, entre guillemets, je mets des guillemets, mais ça se voit pas trop à la radio. Mais d'entrer gentiment dans le...
Mais elles sont là.
Elles sont là. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que justement, il s'inspire énormément de ce qui se fait ailleurs, et ils adaptent un petit peu à la réalité du terrain en disant attention, ça on pourra pas le faire chez nous tout de suite. Ils parlent notamment des drag queens en disant alors ça va pas passer tout de suite. On pourra peut-être le faire plus tard, mais enfin c'est pas dit, mais on comprend que c'est voilà, là tout de suite ça va pas pouvoir le faire. Et ce qui peut paraître choquant quelque part, mais en fait quand on regarde par rapport à la réalité, on comprend très vite pourquoi. Et même les invités internationaux, je crois que c'est le groupe Betty d'ailleurs qui en parle très bien en disant on va se plier un petit peu à ce qu'ils font. On va marcher là, on va se mettre là, elles disent, parce que voilà, enfin à un moment donné, oui, c'est une marche avant tout lituanienne, quoi. Mais
exactement.
Ah ben, oui, c'est déjà toute la partie des guests, ils avaient des gardes du corps un peu partout. Ouais. Et pour les autres qui sont pas protégés comme ça, à part par la police, qui était quand même conséquente, il y avait 6000 policiers.
Mmh. Donc, 6000 policiers pour 1000 manifestants.
Donc voilà.
C'est un bon ratio.
C'est vrai qu'il y avait une liste énorme d'indications à ne pas faire, mais aussi bien, ça peut être des choses toutes bêtes, ou se donner rendez-vous, sachant ouais. qu'on sait où est-ce qu'on va défiler 4 jours avant. C'est un petit peu compliqué de communiquer ça à tout le monde, mmh. aux participants, à la sécurité, à tout ça. Et en plus de ça, oui, pour les tenues à porter, faut pas trop être dénudé. Là, on risque pas de défiler les seins nus là-bas, quoi.
Mmh. Ouais, il y a vraiment... Oui, il y a une peur, une crainte de la réaction... mais qui se comprend, hein, c'est pas du tout négatif. Oui.
Mais et en même temps, moi je trouve, parce qu'on voyait des extraits un petit peu, alors très, très courts extraits, mais des expos, des choses qu'il peut y avoir, et en même temps je me dis, les choses transgressives, elles ont lieu là, pendant cette semaine-là, j'ai l'impression en fait, par ces lectures, par ces expositions, et où au final, après on se dit, bon bah ok, allez, pour quand même essayer de faire ce qu'on veut, donc cette Pride, on va essayer de se lisser un petit peu, mais c'est... On s'en fout, elle est là en fait. On est là, oui. On est dans la rue.
C'est-à-dire
en fait.
Que la Pride, c'était l'événement le plus facilement accessible au public qui n'avait pas besoin de se renseigner beaucoup pour savoir que ça y était. Ça faisait 6 mois que tout le monde en parlait dans les médias.
C'était diffusé en direct à la télé.
Ouais,
aussi.
Voilà. Enfin, c'était un truc de malade. Il y avait des hélicos qui survolaient. Tout. C'était absolument invraisemblable comme truc. Et ça avait une ampleur médiatique en tout cas énorme. Mais c'est vrai que pendant toute la semaine, donc toutes ces expos, tous ces machins, il fallait faire la démarche d'aller les chercher. Mmh. Donc c'était un public déjà plus convaincu par le sujet. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu on n'en a pas parlé tout à l'heure, il y avait une expo de fanzine queer, qui était très intéressante d'ailleurs. Il y a des choses comme ça qui sont déjà beaucoup plus transgressifs.
Une petite poétesse new-yorkaise aussi.
Voilà, Eileen Miles, qui est plutôt connue.
Ouais. Je pense qu'il y a là à Lyon, ils doivent baver en se disant mais ils ont réussi à l'avoir en Lituanie, mais je la veux chez nous. Et voilà. Ouais, non, mais ça montre justement cette solidarité internationale et qui est très intéressante parce que venir dans un festival, une semaine qui était autour de la Baltic Pride. Je pense que elle le fait vraiment plutôt par militantisme que juste pour parce que voilà il y a rien à y gagner quoi et c'est intéressant de voir qu'elle est là quand même et voilà.
Enfin, après honnêtement est-ce que ça joue pas, il y a Monsieur Stuart Mill qui vient.
Ça peut jouer aussi. Ouais.
Je pense que les gens ont plus de facilité à se dire bon il va à un événement c'est important on le suit.
Ouais et puis après je pense qu'il y avait aussi l'ambassade des États-Unis qui avait vraiment fait un gros coup médiatique par rapport aux guests quoi voilà Eileen Miles était venue avec l'ambassade des États-Unis, Betty est venue avec l'ambassade des États-Unis, Stuart Milk aussi. Je pense que l'ambassade des États-Unis avait vraiment voulu mettre en valeur leur implication dans le truc quoi. Mm.
D'ailleurs, Betty sera à nouveau là pour la Baltic Pride de 2015 qui sera à Riga cet été. Et donc Betty sera encore présente. Donc elles ont vraiment une volonté, elles, en dehors de l'implication des ambassades.
Est-ce que j'en déduis que tu seras à Riga?
On sera à Riga. Mais je savais pas, moi, qu'il y avait Betty. Ça fait plaisir de
venir. Je l'ai vu il y a un mois.
On avait déjà pris nos billets.
Oui. Ah, cool.
Non, c'est vachement bien. On va pouvoir être là-bas. Et en plus, notre film sera diffusé. Donc, pareil, en Lituanie, pendant la Baltic Pride, il y avait aussi un festival de cinéma toute la semaine qui passait tous les soirs des films LGBT. Et à Riga, c'est pareil. Il y a aussi un festival de films. Et donc, le nôtre sera diffusé la veille de la marche. Donc ça, c'est vachement chouette, on est super contents.
Ça rend bien.
Ouais, c'est génial.
Du coup, vous avez été diffusé dans quelques festivals. Le pluriel
festival.
De festival.
Ouais.
Non, c'était pour rire, ça va. Oh, c'est bon, si on peut pas faire d'humour. Hein. dans quelques festivals. Et puis avec quelques prix.
Ouais, on a eu... jusqu'ici, on a eu 3 prix. Le plus intéressant étant le prix du public en Belgique, à Bruxelles, au festival tel quel. Pas de bêtises, ouais, c'est ça. On était présents et on a eu un super bon contact avec le public et c'était bien parce que donc, les gens votaient pour leur film préféré et c'était nous, on avait vraiment été super touchés. Et donc, sinon, on a eu 2 autres prix, donc au San Francisco Film Award et au Festival Accolade, qui sont aux États-Unis tous les deux. C'est quand même c'est génial. On a vraiment des très très bons retours sur notre film. Là, on va être diffusé au festival Homochrome à Cologne. Pareil, là, comme pour Riga, la veille de la Pride.
Excellent.
En double programme avec le film Pride, le film anglais.
Voilà, alors là, j'ai juste envie de vous dire chapeau bas.
Ouais. Je suis hyper content. Ouais.
Mais voilà. J'ai aussi envie de vous dire, parce qu'à la causerie, on fait pas semblant, que c'est largement mérité. Donc, voilà.
C'est gentil. Voilà.
Et pour les Français qui sont dans la région, on sera diffusé le 28, c'est ça ? Ouais, 28 à Grenoble.
Cool.
C'est la semaine prochaine.
Oui.
Oui, c'est ça.
Et on sera présent.
Et puis on a quand même eu notre première française mercredi dernier.
Exactement.
Là, à Montélimar.
Ouais, Montélimar.
Ouais, donc ouais. Ça c'est mon chez moi. J'étais bien accueillie par un cinéma et on a eu un super accueil. Toute ma famille qui était là, c'était cool. Ouais. D'ailleurs merci à tous.
Ouais. Voilà. Non, c'était très 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 chouette. On a eu des bons retours, des bons échanges. Mais c'est important aussi d'échanger avec le public, ça permet de voir un peu ce qui les a marqués dans le film. Mmh. Et c'est marrant parce que selon le public qu'on a, c'est pas du tout les mêmes choses qui ressortent. Et je trouve ça vachement positif en fait. Ça montre que voilà, les gens voient différentes choses dans notre film, c'est plutôt cool.
Ouais.
Moi, un petit pont musical. Oh, c'est beau, un petit pont musical. Et ensuite, nous reviendrons pour parler de comment qu'on peut voir ce film autrement que dans des festivals.
C'est ça.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. Épater leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets, me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux, comme un pauvre clown malheureux de lassitude.
dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire, à ce garçon bon comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu. Je n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger, et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme haut, comme ils disent. Et
vous êtes bien toujours sur Radio Canu, on est à la causerie, encore quelques petits instants.
On va donc dépasser, désolé.
Ah bah oui, c'est certain, il est 23h, ou alors on étend, on se casse, et puis non, on peut pas faire ça. Donc ça fait, bah voilà, effectivement une petite heure qu'on est avec Nathalie et François, où on a causé autour du doc...
We can be gay today.
Merci, désolé, j'ai eu un...
Oh le blanc.
Non, j'ai eu un... ouais, désolé.
Ça arrive, là, il est tard.
C'est ça. Merci.
J'en ai eu un tout à l'heure. Donc...
Et on peut peut-être...
On a écouté ton chanteur préféré quand même.
Oui, c'est ça.
Bah, tu peux donc nous dire là, ce qu'on a écouté.
Bah, dites-le, c'est votre playlist.
C'est Charles Aznavour avec Comme ils disent.
Voilà. Et donc, on va profiter effectivement des derniers...
Et tu n'aimes pas du tout Charles Aznavour.
Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je veux dire, il a fait sa carrière, hein, c'est bon.
carrière est derrière. Pardon. C'est horrible. Bon, c'est la fin de l'émission, hein, désolé.
On se reprend.
Et ben justement, on voulait parler. On parlait avant de voir le festival dans le film, le film l'inverse. Dans des festivals. Mais est-ce qu'il y a moyen de voir le film autrement que dans des festivals voilà.
Alors, on a mis le film en vente sur un site de vente en ligne qui s'appelle VHX. Donc sur ce site-là, on peut louer le film ou pour 2 ou 3 jours, le regarder en streaming sur Internet, ou l'acheter, dans ce cas on peut le télécharger. Donc il y a des prix de départ, mais on peut donner ce qu'on veut en fait, et c'est cool parce que généralement les gens donnent plus que le prix indiqué, donc ça c'est vachement bien. Mais après voilà, moi je suis pas un grand fan du streaming sur Internet pour regarder un film, moi je suis un grand partisan du DVD, et il se trouve que voilà, on a enfin fini le DVD du film donc, que vous avez vu aujourd'hui. Vous l'avez vu quand même en avant-première parce que il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu celui-là.
Et c'est la causerie, c'est pas n'importe où.
C'est pas français, France Inter, voilà, ou je sais pas quoi.
Du coup voilà, il va être en vente très bientôt dès qu'on aura réglé dernier petit problème sur le site de notre société de production Sticky Notes Films. Donc les liens seront sur notre Facebook de toute façon, le Facebook qui sera en lien donc.
Bah nous on le mettra de toute façon le lien au moins du Facebook sur
Exactement.
Sur le blog à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Il faut que je le rende ça en place. Et puis peut-être les liens aussi de la société de prod pour
le site est en cours de construction donc voilà.
Les gens n'ont pas peur mais on leur mettra, c'est en cours de construction. Ok, et donc du coup, vous avez envie de découler beaucoup ce DVD ? Vous avez envie qu'il soit...
On a prévu 10 000 exemplaires, mais je pense qu'il va nous en falloir 1 million de plus. Non, j'en sais rien, je sais pas, ça dépendra beaucoup de différents retours qu'on aura. Voilà, nous on cherche un diffuseur pour nous aider sur ces sujets, parce que c'est pas du tout notre taf, nous on est... Moi je suis réalisateur et chef opérateur, Nathalie elle est réalisatrice et ingénieure du son. Ouais. On n'est pas du tout dans la distribution et la production, ce genre de choses, et du coup voilà, on est toujours en recherche de gens qui peuvent nous aider sur ces sujets là parce que pour l'instant on fait ça avec nos petites mains, mais comme c'est pas notre taf on s'y prend des fois un peu de travers, mais bon, pour l'instant ça avance, on n'est pas trop mal tiré, mais voilà, c'est clair que pour passer au niveau au-dessus, voilà, on aurait besoin de vraiment de trouver quelqu'un.
Voilà. Et franchement, moi, je vais le redire pour ceux, pour les programmateurs, programmeurs.
Programmeur, c'est l'informatique.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est un petit mélange. Qui aurait envie d'avoir justement une vision un petit peu différente, je dirais, des prides qu'on a un petit peu ronron, des prides un peu franco-françaises ou disons Europe de l'Ouest. Et je trouve que c'est un très très bon bonne approche. Voilà. Puis ça rappellera plein de forcément très bons souvenirs aux militants. C'est bon parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit dans le film, il a tout à fait raison. C'est que sur le coup, on se rappelle et on fait les cauchemars des trucs négatifs. Et puis quelques années après, on se rappelle que des gens colorés qui sourient. Et c'est exactement ça. Et je pense que c'est bien de voir des choses émerger en action. Mmh. Et vous le faites très bien. Donc,
merci.
Programmateur, donc, toi qui nous écoutes, surtout si tu es à Lyon et que tu es dans écran mixte, eh ben fais-le, bon sang.
Hein, c'est ça.
Voilà.
T'envoies un petit mail à la causerie, on fait passer. Et
on
puis,
est toujours
c'est mais oui, mais c'était d'une subtilité. C'est pas le propre de la causerie, la subtilité, mais.
On fait pas dans les manières, en fait. Ça sert à rien.
En plus,
rien
on est lyonnais, on est abordable et tout. Voilà. On est indépendant, on est beaucoup dispo, y a pas de problème.
Non, mais. Ouais, vas-y.
Non, vas-y.
Non, non, mais je voulais pas de coupe. Non, non vraiment pas.
Bon, allez, fin d'émission, c'est.
Non, c'est juste chose. Que là, il faut que je retrouve ce que j'allais dire. Parce que... Ah oui, voilà, c'est, j'ai retrouvé. En dehors de ça, donc, moi, je voulais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je voulais quand même chaleureusement vous remercier d'être venu, parce que ça fait plaisir.
Merci à vous de nous avoir invités.
Ouais, merci beaucoup. Ouais.
Inviter les gens à aller voir le documentaire ou à le commander le DVD, parce que comme tu l'as dit, c'est vachement mieux sur le DVD, parce qu'en plus, il y a des bonus et que c'est vachement
exactement.
Bien. Vous n'avez pas
en et surtout, il y a les sous-titres en français. Ah oui, j'ai oublié de le préciser.
Ah,
ça.
C'est ça aussi.
C'est que le film sur VHX, il est sous-titré en anglais. Donc, pour avoir les sous-titres en français, il faut me contacter. Je peux les envoyer. Mais du coup, c'est pas possible si on le regarde en streaming. Donc, voilà, il est principalement en anglais. On a tourné le film en anglais de toute façon. Quelques trucs près qui sont en lituanien ou en français, mais le gros est en anglais. Et donc, sur le DVD, il y aura les sous-titres en anglais, en français, en lituanien et en anglais pour malentendants si jamais on veut regarder le film avec les sous-titres en anglais.
Et il est très bien sous-titré, parce qu'on l'a regardé.
Merci.
Non, non, c'est vrai.
Oui, merci.
C'est pas le cas de tous les DVD, vous pouvez me croire.
C'est un sacré boulot.
Ouais. Là, il y en a où les fautes de français sont tellement énormes que ça... Là, il n'y en a pas.
C'est ma femme qui a fait les traductions.
Bravo à elle.
Bravo à elle. On a fait ça en local.
Donc voilà, merci. Nous, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ?
Rien de particulier.
Encore une fois, merci
de
nous
merci.
Accueillir, parce que... On a besoin de se faire connaître quand même et faire connaître le film, donc c'est vraiment important.
Mais de rien, là. Et que comme la dernière fois, Nat, la porte est toujours ouverte.
C'est à ça qu'on sert en fait. Nous, on est là
François,
dimanche, on attend.
Pour toi aussi.
Pas de problème.
Mais oui. Vous n'hésitez pas, vous grattez à la porte comme un chat, on vous ouvrira.
Oh. Avec un petit miaulement. Alors moi, je voulais juste, avant qu'on se quitte quand même, c'est faire un bisou à... aux causeuses qui sont pas là, à savoir Jonathan, Nadège, Emma, on fait des bisous qu'on retrouvera bientôt.
Oui.
Et puis
bah peut-être annoncer ce qu'il y a la semaine prochaine.
Ouais.
Ce serait bien.
Et ben la semaine prochaine et je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé la semaine passée.
J'ai un peu effleuré le sujet.
C'est vrai, wow. T'avais balancé le truc. En fait, on va recevoir. En fait, un collectif d'animateurs et d'animatrices de radio associative. Je crois qu'ils sont allemands et béninois.
Ouais, c'est ça.
Et donc, l'idée, ce sera de causer de radio, la radio associative, qu'est-ce que c'est, enfin, comment chacun approche cet élément-là, parce que nous aussi, on est dans une radio associative, et que de croiser nos regards autour des médias, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà.
On en profite pour rappeler que Radio Canu a besoin de sous, donc on fait
on
un
peut.
Appel aux dons. Et que si vous voulez envoyer vos dons, c'est à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon, CEDEX 01. Voilà.
Et sur le site internet, vous avez le code IBAN.
Voilà, et que vous pouvez faire ça par virement ou par chèque. Et vraiment, alors juste quand même, on peut commencer à le dire, on devrait rester dans ce local, donc allez-y, on a besoin de sous pour rester ici. Donc voilà, aidez-nous. Et dire que le 31, si tout se passe bien, il y aura de la musique dans la causerie.
C'est ça.
Voilà.
Et puis plus tard, de l'astronomie, et puis peut-être de la science. Et...
Plein de choses,
enfin, plein de choses. Eh ben, on vous remercie encore. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toi, t'as encore un truc à rajouter.
J'ai juste un point parce que justement, bah, on parlait de marche des fiertés, de Pride. On approche de la Pride de Lyon, donc j'invite tout le monde à aller quand même à la quinzaine LGBT qui va se tenir avant la Pride. Et la Pride, c'est le 20 juin. Voilà. C'était juste pour que les gens se mettent en tête que va falloir faire autre chose de ces soirées que d'aller boire des drinks tranquillement sur les terrasses. Il y a des soirées intéressantes à aller voir.
Voilà.
Voilà, message passé. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore Nat et François.
Et merci Clara pour la technique.
Et merci Clara.
Bonsoir.
Bonne soirée. Et attends, on se quitte avec quel titre?
Oui.
Alors, c'est un titre de Noir Désir qui est une reprise de Jacques Brel.
Ouais.
Voilà, parce qu'on n'a pas parlé avant, mais en fait, quand on était en Lituanie pour le Marche des Fiertés, c'était les 10 ans de la mort de Marie Trintignant. Et du coup, les journalistes qui nous ont interviewés, comme on était français, ils nous ont posé des questions sur Noir Désir, ce qui n'avait aucun rapport. Et comme j'ai répondu complètement à côté de la plaque, je me suis fait allumer dans les commentaires sur Internet. Parce que ça aussi, c'est un sujet dont on n'a pas parlé. Les commentaires sur Internet sont particulièrement violents. Et pour ceux qui suivront notre Facebook, on va très bientôt envoyer la bande-annonce du DVD dans laquelle on met des extraits des commentaires Facebook qu'on a eus sur notre Facebook qui sont particulièrement gratinés. Voilà.
Et ben,
donc,
okay.
Noir Désir.
Yes. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao et bon courage.
Et c'est le titre, on l'a pas dit.
Ces gens-là.
Ces gens-là.
D'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon. Lui qui a un gros nez. Lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit. Tellement qu'il a bu. Qui fait rien de ses 10 doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, ouais, comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. Puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qu'aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. Dis rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, y'a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Puis y'a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève. Vu que c'est elle qu'a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. Avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même un peut-être, parce que les ceux ne veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est en belle. J'ai oublié. Oui, ça c'est pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, son blanc, c'est pas exprès. Avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira. Elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur. Pour un instant seulement, parce que je veux ces gens-là, monsieur. Il s'en va pas. Il s'en va pas.